à Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guerriec en direct de Washington, mardi 29 mai 2018, Le Monde Aujourd'hui, édition de 17h30, temps universel. Au sommaire ce soir au Gabon, un membre de la garde républicaine a été blessé par balle au passage d'un convoi du président. Sénégal, le président annonce une augmentation des bourses et une baisse du prix des repas dans les universités publiques. Au moins 10 personnes ont été décapitées au cours du week-end par des islamistes présumés au Mozambique. Et un haut-gradé nord-coréen va effectuer une très rare visite aux États-Unis. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. Au Gabon, un membre de la garde républicaine a été blessé par balle lundi dans le centre de Libreville. Ce militaire était positionné à proximité d'un lycée où devait passer le convoi du président Ali Bongo. Une voiture s'est arrêtée à sa hauteur. Un des occupants a baissé la vitre et a tiré sur lui. Le véhicule a réussi à prendre la fuite. On n'a pas plus d'infos sur les assaillants. Dans la région anglophone du nord-ouest du Cameroun, 32 personnes, dont 5 otages, ont été tuées la semaine dernière à Menka lors d'un affrontement entre forces de sécurité et un groupe armé. Selon le gouvernement, 27 terroristes ont été neutralisés lors de l'opération visant à déloger des assaillants qui avaient pris possession d'un motel. Toujours d'après les autorités, 15 otages se trouvaient dans l'établissement. République centrafricaine, l'Assemblée nationale a adopté la loi ratifiant le règlement de la Cour pénale spéciale. Cette juridiction extraordinaire doit juger des crimes commis en Centrafrique depuis 2003. Créée en 2015, elle n'est pas encore opérationnelle et les enquêtes n'ont pas encore commencé. RCA toujours, le nombre de déplacés a augmenté de plus de 70% en un an, d'après le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. En avril 2018, il était de 669 997, a indiqué OCHA. En plus de ces déplacés, 570 000 autres personnes se sont réfugiées dans les pays alentours. Au total, plus d'une personne sur quatre a dû fuir son domicile en Centrafrique. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est arrivé aujourd'hui à Bamako pour la journée internationale des casques bleus. Accueilli à l'aéroport par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, M. Guterres s'est ensuite rendu à la base de la MINUSMA pour une cérémonie d'hommage aux casques bleus tombés en 2017. Au moins 10 personnes ont été décapitées au cours du week-end dans le nord-est du Mozambique, une zone où des militants islamistes avaient précédemment été signalés. Les précisions de Félix Sepassi-Zembro.
Plusieurs sources locales s'exprimant sous anonymat ont confié à l'AFP que l'attaque a eu lieu à Lobe, dans un village de la province de Cabo Delgado, non loin de la frontière tanzanienne. Des enfants et le chef du village figurent parmi les victimes. Les assaillants seraient des militants islamistes et auraient visé le chef du village pour avoir fourni à la police des informations sur leur cachette. Un groupe islamiste radical dénommé Al-Shabaab avait investi en octobre dernier la ville de Mossimboa de Praia dans la même province. Il avait pris pour cible le commissariat de police et une caserne militaire. Il avait fallu 2 jours de combat avant que la police ne puisse reprendre contrôle de la situation. D'après le bilan officiel, 2 policiers, 1 chef local et 14 assaillants ont péri dans ces affrontements. Les autorités mozambicaines ont arrêté depuis le mois dernier plus de 300 personnes soupçonnées d'être liées aux islamistes.
Aux Comores, le président Azali Assoumani, interdit de briguer un second mandat successif, compte toutefois se représenter en 2019 en cas de victoire du oui au référendum constitutionnel du 29 juillet, a confirmé son porte-parole. Des élections législatives et présidentielles se tiendront en Libye le 10 décembre de cette année. C'est du moins ce qui ressort d'une déclaration faite ce lundi à Paris, à l'issue d'une rencontre organisée par le président Emmanuel Macron et les 4 responsables libyens. Les précisions de John Lindon.
Nous nous sommes engagés à œuvrer de manière constructive avec les Nations Unies pour l'organisation des élections dignes de foi et pacifiques et à respecter les résultats des élections lorsqu'elles auront lieu, indique la déclaration politique endossée par le Premier ministre du gouvernement d'Union nationale, Fayez al-Sarraj. Le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est du pays, le président de la Chambre des représentants, Aguila Salah, et celui du Conseil d'État, Khaled al-Meshri. Cette déclaration a été lue en arabe par l'envoyé spécial de l'ONU, Kassam Salamé. Emmanuel Macron a évoqué une rencontre historique, une étape importante pour la réconciliation en Libye, un pays plongé dans le chaos depuis la chute de Muammar Kadhafi. Pour sa part, le Premier ministre Fayez al-Sarraj a lancé un appel au dialogue, appelant à arrêter les combats. Les présidents tchadiens Idriss Déby, nigérien Mahamadou Issoufou, tunisien Beji Caïd Essebsi et congolais Denis Sassou Nguesso, représentant de l'Union africaine sur la Libye, ainsi que le Premier ministre algérien Ahmed Ouyahia, ont pris part à cette rencontre de Paris.
Et concernant la Libye, toujours, l'ancien ministre français Éric Woerth a été inculpé pour complicité de financement illégal de campagne dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de financement libyen de la campagne de l'ancien président français Nicolas Sarkozy en 2007. C'est ce qu'a annoncé à l'AFP son avocat. Égypte, le président Abdel Fattah al-Sissi va prêter serment samedi devant le Parlement, 2 mois après sa réélection, avec plus de 97% des voix. Monsieur Sissi a largement remporté l'élection de mars avec un taux de participation de 41% et sans concurrent véritable, son seul adversaire étant un inconnu et un fervent partisan du régime actuel. Nigeria, le président Muhammadu Buhari a annoncé qu'il allait approuver une loi baissant de 40 à 35 ans l'âge minimum pour être candidat à un mandat politique. C'est aujourd'hui la journée de la démocratie dans son pays, 3 ans après son arrivée au pouvoir. Une étudiante sud-africaine qui avait reçu par erreur une bourse de près d'1 million d'euros a été arrêtée pour vol à East London. Simbongile Mani, 28 ans, s'est livrée à la police. En juin dernier, cette étudiante de l'université Walter Sisulu dans la province du Cap avait vu son compte crédité de 14 millions de rands, environ 960 000 euros. L'entreprise en charge de payer les bourses avait ajouté par erreur 4 zéros à la somme de 1400 rands, environ 96 euros, versés chaque mois à l'étudiante. L'erreur a été découverte au bout de 3 mois et l'argent encore disponible sur le compte de la jeune femme récupéré. L'étudiante a été libérée aujourd'hui après avoir reçu un avertissement et convoquée à une nouvelle audience le 2 juillet.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, 2 agents de police et un conducteur de voiture ont été assassinés à Liège, en Belgique. L'assaillant, qui était détenu dans une prison de la ville, était en permission. Il a blessé plusieurs policiers avant d'être abattu. Marie Benson.
2 policières et un homme âgé de 22 ans ont été tués par un individu âgé de 36 ans qui était détenu dans la prison de Liège, mais jouissait d'une permission pour préparer sa réinsertion. L'homme, appelé Benjamin, a attaqué au couteau 2 policières avant de les tuer avec leur arme de service. Il a ensuite tué le passager d'un véhicule qui était garé non loin de là. L'homme prend alors la direction d'un complexe scolaire et prend en otage une employée. Les policiers sont intervenus rapidement. L'assaillant a fait feu sur eux, mais a finalement été abattu, d'après Philippe Dulieu, procureur de Liège, qui soupçonne une action terroriste. Le président français Emmanuel Macron a exprimé la solidarité et les condoléances des Français suite à cette attaque meurtrière.
L'attaque visait clairement la police, a assuré le chef de la police de Liège, Christian Beaupère. L'affaire a été mise à l'instruction avec qualification d'infraction terroriste selon le procureur du roi. Une conférence de presse du parquet fédéral est prévue demain à Bruxelles. C'est toujours le suspense concernant le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. À 2 semaines de cette rencontre, les échanges diplomatiques s'intensifient entre Washington et Pyongyang. Dans une très rare visite, un haut responsable nord-coréen est attendu aux États-Unis. Raissa Girondin.
Nous avons constitué une excellente équipe pour nos discussions avec la Corée du Nord. Des rencontres se déroulent actuellement concernant le sommet, a tweeté le président américain. Donald Trump a confirmé que le général nord-coréen Kim Jong-chol est en route vers New York, deux jours après qu'une délégation américaine a rencontré des responsables nord-coréens à Panmunjom, dans la zone démilitarisée entre les deux Corées. Kim Jong-chol a fait escale à l'aéroport de Pékin où il devait s'entretenir avec des responsables chinois avant de venir aux États-Unis. Dans le même temps, une délégation américaine est en route pour Singapour pour les préparatifs logistiques mais aussi fixer l'agenda de la réunion prévue le 12 juin. Les deux Corées se sont rencontrées samedi dernier. Maintenant, Washington et Pyongyang doivent se retrouver pour définir la dénucléarisation.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Eric Manirakiza.
La Côte d'Ivoire considère désormais la noix de cajou comme un produit stratégique. Abidjan ambitionne de transformer la moitié de sa production d'ici à 5 ans pour accroître ses revenus et offrir de l'emploi à ses jeunes. La récolte de noix de cajou a doublé en 5 ans et représente 22% de la production mondiale. Première productrice mondiale, la Côte d'Ivoire est également leader mondial du cacao et enregistre 50% de ses recettes d'exportation. La Banque mondiale va débourser $1 milliard pour développer notamment l'agriculture, dont $200 millions pour appuyer des projets de transformation de la NARCADE, baptisée l'or gris. Le gouvernement va créer 4 zones industrielles destinées à la transformation à Bouaké, Korogo, Bondoukou et Séguéla. Le secteur compte 250 000 producteurs regroupés dans une vingtaine de coopératives et emploie 1,5 million de personnes, directement ou indirectement. Le Burkina Faso et le Togo ont lancé l'interconnexion de leur système informatique douanier. Ils veulent réduire le temps de transit sur le corridor Lomé-Ouagadougou et contribuer à rendre plus fluide le trafic entre les deux pays. 39% des marchandises importées au Burkina Faso transite par ce corridor. Ce projet est financé par l'Agence japonaise de coopération internationale pour environ $2 millions. L'Éthiopie envisage une extension de son réseau routier à 200 000 km d'ici à 2020. Le réseau actuel couvre 121 271 km. Addis Abeba a multiplié les investissements dans les infrastructures pour doper son économie par le commerce et les transports.
Sur les stades, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Première titularisation et premier but pour Weah.
Et oui, Timothy Weah, fils de George Weah, légende du foot et président du Liberia, a inscrit son premier but sous le maillot de l'équipe des États-Unis hier à Chester, en Pennsylvanie, en match amical contre la Bolivie. Timothy Weah, 18 ans, né à New York, a inscrit le troisième but de Team USA, qu'il a finalement remporté par 3-0. Les États-Unis, qui n'ont pas décroché leur qualification pour le Mondial 2018, ont encore 2 matchs amicaux à leur programme contre l'EIR le 2 juin à Dublin et contre la France une semaine plus tard à Lyon.
Basketball, la finale NBA opposera Golden State à Cleveland.
Dominé jusqu'à la mi-temps, le champion en titre Golden State a renversé Houston sur son parquet la nuit dernière lors du match numéro 7 de la finale de conférence Ouest 101-92. Les Warriors se sont donc offerts une 4e finale NBA d'affilée face au Cleveland Cavaliers de LeBron James. Grand artisan du réveil de Golden State, Stephen Curry, peu en verve en début de match, a réussi un 3e carton exceptionnel et terminé le match avec 27 points. Pour la 4e année d'affilée, la finale NBA opposera donc à partir de jeudi Golden State à Cleveland, tombeur dimanche de Boston.
Premier tour du tournoi de Roland-Garros, Nadal ne s'est pas amusé face à Bolelli.
Rafael Nadal a franchi le premier tour en dominant le lucky loser italien Simone Bolelli, 6-4, 6-3, 7-6, mais a failli perdre un set à Paris pour la première fois depuis 3 ans. Avec cette 80e victoire dans la capitale française, l'ordre de la terre battue en est désormais à 29-7 remportés de suite sur sa surface fétiche. Nadal affrontera au prochain tour l'Argentin Guido Pella, 78e mondial, qui a dominé le Portugais João Sousa.
Toujours en tennis, retour gagnant pour Serena Williams.
L'ancienne numéro 1 mondiale a réussi son retour à Roland-Garros qu'elle avait manqué l'an passé pour cause de maternité en écartant la Tchèque Kristina Pliskova en 2-7, l'Américaine aux 23 trophées du Grand Chelem, dont 3 à Paris 2002, 2013 et 2015, disputait son premier match depuis un peu plus de 2 mois et sa défaite d'entrée à Miami.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guerriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Au Burkina Faso, les syndicats du ministère de l'économie, des finances et du développement tiennent depuis hier, et ce jusqu'au 1er juin, des sit-ins sur les lieux de travail. Ils réclament le respect par le gouvernement de ses engagements au prix et protestent contre des mesures que le gouvernement envisage de prendre. Yacouba Ouédraogo a joint Adama Bayiré, représentant de la coordination des syndicats du ministère de l'économie et de finances.
Le mot d'ordre est tiré sur toute l'étendue du territoire national, en dépit de la répression qui est abattue sur les travailleurs qui sont en lutte.
Quel genre de répression?
Le gouvernement a déployé des éléments de la compagnie républicaine de sécurité et de la gendarmerie nationale dans toutes les directions et services du ministère de l'économie pour empêcher tout regroupement des travailleurs. Mais malgré cette présence policière, les camarades travailleurs ont pu quand même observer des sit-ins devant les directions ou dans les locaux des directions du ministère. Tous les travailleurs ont fait preuve d'une discipline quand même salutaire, ce qui a évité tout affrontement avec les forces de l'ordre.
Vous dites que le mouvement est suivi. On apprend que le syndicat des douaniers n'a pas observé le mot d'ordre de sit-in. Le mouvement ne se disperse-t-il pas?
Non, pas du tout. Il faut noter le caractère particulier du corps de la douane. C'est un corps paramilitaire et il y avait déjà des éléments de répression de la part du gouvernement. Donc, pour éviter des affrontements entre la police ou la gendarmerie et puis les camarades de la douane, il a été décidé que les camarades douaniers puissent ne pas faire le sit-in comme les autres travailleurs du ministère le font. Mais le syndicat reste solidaire de la lutte.
Qu'est-ce que vous réclamez concrètement au gouvernement?
Les travailleurs du ministère réclament tout simplement que le gouvernement respecte ses engagements. En plus, il y a des réformes que le gouvernement veut entreprendre au sein du ministère qui véritablement constituent un danger pour les carrières des travailleurs, mais également un danger même pour les finances publiques pour notre pays.
Quel engagement le gouvernement a pris et qu'il n'a pas respecté? Qu'est-ce que le gouvernement a promis et qu'il n'a pas donné?
Par exemple, il y a la question des cotisations syndicales qui est un engagement avec le gouvernement qui constitue à la retenue à la source et des cotisations syndicales et des cotisations pour les mutuelles dont le ministre des Finances a décidé de mettre terme unilatéralement. Ensuite, il y a la question du carburant, du fonctionnement pour les travailleurs. Et le ministre a pris un arrêté pour dire désormais qu'il n'y a plus de carburant pour les sorties sur les terrains. Ensuite, il y a la question également des motivations financières. On a demandé qu'il y ait des statuts sécurisants pour le personnel du ministère. Aujourd'hui, on nous tendons vers une privatisation des finances publiques. Il y a 3 mesures fondamentales que le ministre veut faire passer. 1, c'est l'érection de la direction générale des impôts en établissement public d'État, ce qui est véritable. Contrairement au caractère de souveraineté d'État de l'impôt, il y a la question par exemple des guichets banques qu'elle veut installer au sein des services des impôts. Et nous avons estimé qu'il y a des travailleurs qui sont là pour faire le travail. Ensuite, le gouvernement peut également donner le recouvrement des créances fiscales à des privés, alors que nous sommes formés pour ça.
La semaine dernière, vous étiez en grève. Cette semaine, vous êtes en sit-in. Le sit-in a été déclaré illégal dans un avis rendu par le Conseil d'État, qui est quand même la plus haute juridiction administrative du pays. Ne craignez-vous pas d'être sanctionné?
Là, aucun gouvernement ne va applaudir quand les travailleurs vont en lutte. C'est un avis que le Conseil d'État a donné. Pour nous, ce n'est pas une décision que le Conseil d'État a rendue. Ensuite, il y a la constitution du Burkina Faso qui quand même garantit la liberté de manifester.
Adama Bayiré, représentant de la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances, joint à Ouagadougou.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer à votre avis ce lundi à 18h05, temps universel sur VOA Afrique. À l'occasion de Memorial Day, les Américains honorent les soldats morts au combat. Quels héros nationaux et militaires africains vous ont le plus marqué? Pensez-vous qu'ils sont honorés à leur juste valeur par leurs pays respectifs et au plan continental? Un hommage officiel leur est-il rendu? Pour participer, laissez vos numéros et commentaires sur la promo de notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. A tout à l'heure sur VOA Afrique.
Au Sénégal, le président Macky Sall a augmenté les bourses des étudiants et réduit les prix des repas dans les universités publiques du pays. C'est à la suite de la grève des étudiants, déclenchée depuis la mort d'un des leurs au cours d'affrontements avec la gendarmerie le 15 mai. Les demi-bourses mensuelles passeront de 18 000 à 20 000 francs CFA et les bourses entières de 36 000 à 40 000 francs CFA. Les délais de paiement ont été fixés au plus tard dans le 5 de chaque mois. Le prix du petit déjeuner dans les restaurants universitaires va par ailleurs passer de 75 francs CFA à 50 francs CFA et celui du déjeuner, du dîner de 150 francs CFA à 100 francs CFA. Pour analyse, Eric Manirakiza, adjoint à Dakar, l'analyste Ibrahima Ken.
Les étudiants avaient pratiquement posé des conditions qui créaient un blocage total dans la recherche d'une solution. Donc il fallait qu'ils fassent montre d'une certaine générosité et il l'a cette fois-ci fait dans le cadre de l'augmentation des bourses. Et puis on est à un an des élections, Macky Sall veut se faire réélire et donc il a besoin de donner, ne serait-ce qu'à la communauté universitaire, des gages au moins d'un soutien ou autrement d'une position de neutralité dans les élections qui vont venir.
Est-ce que c'est amplement suffisant pour apaiser les esprits?
Pas tout à fait certain, parce qu'il y a maintenant une division entre les étudiants de l'université de Saint-Louis qui n'ont même pas participé à la réunion d'hier au cours de laquelle le président a fait cette annonce et le reste des étudiants du Sénégal. N'oubliez pas que la crise est née à l'université de Saint-Louis et que ces étudiants avaient vraiment des demandes très claires, très précises. Et deuxièmement, la crise de l'université n'est pas simplement une crise de bourse ou bien une crise alimentaire. C'est la place de l'université dans la société sénégalaise. Vous avez une université à Dakar qui fait 100 000 étudiants. 50 000 de ces étudiants font lettres. Le Sénégal n'a pas les moyens d'employer 50 000 professeurs. 90% seront des chômeurs. L'éducation ici au Sénégal est en crise depuis 88, donc ça fait depuis 20 ans et aucun des gouvernements n'a pu trouver de solution. WADA avait généralisé les bourses. Et maintenant, on se trouve dans une situation où ces bourses sont insuffisantes et les étudiants en demandent plus.
Macky Sall pourra tenir le coup?
Je voulais juste sur ce point vous dire une chose qui est vraiment extraordinaire au Sénégal. C'est le seul pays en Afrique de l'Ouest où, dès qu'on arrive à l'université, on a une bourse. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La bourse, c'est toujours l'expression d'un encouragement à l'étudiant. C'est aussi le reflet du niveau du travail que l'étudiant a fait pour pouvoir continuer ses études. Mais donner une bourse à tout étudiant, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'inacceptable parce que l'État ne peut pas tenir le coup. Plus on aura d'étudiants, plus les problèmes économiques vont se poser à ce même gouvernement. Et donc, il faudra vraiment crever l'abcès. Il y a un an, une structure avait été mise en place pour régler ce problème. Et une des propositions de cette structure, c'était justement de revoir toute la problématique des bourses au Sénégal. Malheureusement, on est encore dans la politique politicienne. On ne semble pas être pressé pour mettre en application ces recommandations.
L'analyse d'Ibrahima Kane à Dakar.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Cameroun, le gouvernement a tenu à faire connaître son point de vue sur ce qui s'est passé à Menka, zone anglophone, vendredi dernier. Il s'est agi pour le porte-parole du gouvernement d'apporter des précisions sur ces accusations qui pèsent sur l'armée camerounaise, qui aurait sommairement exécuté une vingtaine de personnes dans la localité de Menka, dans la région du Nord-Ouest. Retour sur cette conférence de presse de Issa Chiroma Bakari, par ailleurs ministre de la Communication, avec Denis Kwebo, journaliste joint à Douala par John Hindon.
La communication du ministre de la Communication était très attendue, notamment avec des vidéos de mauvais goût qui avaient été diffusées sur les réseaux sociaux en rapport avec des massacres imputés aux militaires camerounais. Et il faut dire déjà en tant que journaliste que la version des faits rapportée par le ministre de la Communication rejoint en réalité d'autres versions concordantes émanant de journalistes anglophones qui sont allés sur le terrain. Cela n'exclut pas qu'il y ait eu des erreurs de la part des militaires camerounais lors de cette intervention. Mais de toutes les façons, tout est clair. Il est maintenant clair que ceux qui ont été attaqués à Menka étaient effectivement des éléments appartenant aux bandes des armées qui écument la région du Nord-Ouest.
Justement, le gouvernement parle de la présence des bandes armées dans certaines localités, notamment Menka que vous avez cité. Comment expliquer cette présence?
Menka fait partie de l'épicentre de la crise dite anglophone côté Nord-Ouest. Menka, c'est dans Pinyin, notamment le ministre a parlé de Pinyin également. Donc, c'est une zone qui était, ces derniers temps, infectée d'éléments armés incontrôlés. Et les attaques répétées contre les militaires, contre les policiers et les gendarmes renseignaient sur le caractère dangereux de cette zone, de Wabane, d'où les affaires seraient probablement venues. Mais ces derniers temps, c'était devenu en réalité une zone hautement dangereuse où les véhicules ne circulaient pas, les activités roulaient au ralenti et il y avait des actes de prise d'otages avec réclamation de rançon. Et depuis quelques jours, on a l'impression que ça s'est calmé.
Alors, du point de vue de la résolution de ce qui est aujourd'hui la crise anglophone, où en est-on avec les négociations, si négociations il y a, et que sont devenus les leaders sécessionnistes arrêtés par le gouvernement?
De toutes les façons, du point de vue du gouvernement, on peut négocier avec tout le monde, sauf avec ceux qui se sont réclamés du leadership du mouvement identitaire anglophone. Donc, Ayuk Tabe et ses compagnons interpellés du Nigeria et Sadebe le Cameroun ne font pas partie de la solution selon le gouvernement du Cameroun. C'est un point de vue qui est partagé par beaucoup de personnes qui sont contre la sécession. Et il n'est pas établi également aussi que les leaders interpellés au Nigeria et extradés vers le Cameroun soient effectivement des interlocuteurs valables. Quand on regarde la dispersion des mouvements armés qui opèrent sur le terrain au nord-ouest et au sud-ouest, on n'a pas une lisibilité en matière de coordination et d'unité politique de ces groupes-là.
Voilà, c'était Denis Kouebo, journaliste joint à Douala.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer à votre avis ce mardi à 18h05 temps universel sur VOA Afrique. Les étudiants sénégalais ont obtenu gain de cause dans leurs revendications. Le président Macky Sall a décidé d'augmenter le taux mensuel des bourses et le nombre de boursiers. Qu'en pensez-vous? Pour participer, laissez vos numéros et commentaires sur la promo de notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. A tout à l'heure sur VOA Afrique.
Le Nigeria célébrait ce mardi la journée nationale de la démocratie. Cela fait 3 ans que le président Muhammadu Buhari dirige le pays, le plus peuplé d'Afrique, après avoir battu aux urnes son prédécesseur Goodluck Jonathan. L'ancien général, âgé de 75 ans, avait bénéficié de la confiance des Nigérians pour sa détermination à lutter contre la corruption, mais surtout à mettre fin à la sanglante insurrection du groupe terroriste Boko Haram. Notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba, revient sur les 3 années de l'administration Buhari.
Il y a 3 ans, le Nigeria vivait la première alternance démocratique de son histoire. Le général Muhammadu Buhari gagnait la présidentielle, une victoire que son prédécesseur, Goodluck Jonathan, avait reconnue. 3 années plus tard, où en est le Nigeria et que pensent les Nigérians de l'administration de Buhari qui avait promis des performances? Judith Edward, activiste et assistante dans une ONG locale de développement.
Je ne dirais pas particulièrement que je suis satisfaite. Je sais que beaucoup reste à faire. Le genre de changement que nous voulons exige qu'on fournisse assez d'efforts parce que les dommages causés ne se sont pas produits en une seule année. Ça a pris plusieurs années pour que ces dommages se produisent. Donc, pour pouvoir réduire les débris de ces dommages, nous devons fournir plus d'efforts.
Les 2 principaux thèmes de la campagne électorale de 2014 et 2015 du président nigérian étaient la lutte contre la corruption et la mise hors d'état de nuire du groupe terroriste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Des succès divers ont été enregistrés, certes, lors des 3 dernières années, mais pour l'heure, beaucoup reste à faire. Et réaction d'Hidayat Hassan, directrice du Centre pour la démocratie et le développement.
On the fight against corruption, obviously, there have been some
Sur la lutte contre la corruption, il y a eu vraiment quelques impacts, particulièrement des fonds détournés qui ont été recouvrés. Mais aussi cette lutte contre la corruption est vivement critiquée par beaucoup de personnes, surtout avec la perception que la lutte est sélective.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Josèle Morissin, la présentation, Morgane Guériec. Ainsi va le monde aujourd'hui.
VOA Afrique.